Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Voleurs de Feu, un podcast dédié à la poésie et à l'écriture. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de retracer la vie d'un des plus grands voleurs de feu, celui à qui on doit d'ailleurs cette formule, l'un des poètes les plus célèbres dans le monde, un des plus grands poètes tout court, Arthur Rimbaud. Poète illustre qui fascine tant pour son œuvre, qu'il a produite très jeune, que pour sa vie, qui paraît énigmatique et qui soulève bien des questions, comme celle de savoir pourquoi il a arrêté si tôt d'écrire, tout cela a participé à créer le mystère et la légende qui l'entourent. Rimbaud fait partie des poètes maudits, tels que le présente Paul Verlaine dans son ouvrage de 1884. Le génie de Rimbaud ne commencera à être connu alors qu'il s'est lui-même détourné de la vie littéraire pour une toute autre vie en Afrique. Poète provocant, anarchiste, autodestructeur, comme une étoile qui implose en plein vol. Sans plus attendre, je vous embarque avec moi dans les grandes lignes de sa vie. Arthur Rimbaud est né en 1854 à Charleville et mort à Marseille en 1891. Pour se fixer un peu dans la chronologie littéraire, il est considéré comme l'un des pionniers du symbolisme, qui est un mouvement artistique né dans les années 1870, qui se développe d'abord en poésie, puis en peinture, dans la musique et le théâtre. Le symbolisme en poésie fait suite au mouvement du Parnasse. D'ailleurs, Rimbaud côtoiera des poètes parnassiens avant de se détacher de ce mouvement, qui prônait la beauté, la recherche des vers parfaits dans leur forme et l'art pour l'art. On le verra alors plus loin dans cet épisode, Rimbaud, qui rejetait d'une certaine manière l'approche des poètes romantiques et du Parnasse, développera sa propre vision de la poésie, plus mystique, en quête d'absolu et de déchiffrage du monde. Il dira d'ailleurs lui-même, cette formule célèbre, « Je est un autre », ce qui signifierait que le poète est à la fois créateur et spectateur de sa propre création. Ce qui est assez fou et sûrement preuve aussi de son génie, c'est la précocité d'Arthur Rimbaud en matière d'écriture. Il commence à écrire très tôt, et il écrit l'ensemble de son œuvre sur très peu d'années, puisqu'il abandonne définitivement la poésie vers l'âge de 20-21 ans. Il n'écrira plus une ligne de poésie d'ailleurs par la suite, et reniera d'ailleurs ses écrits de jeunesse, pour partir à l'aventure en Afrique et en Asie. Comme un météore de la poésie, il écrira l'essentiel de son œuvre entre l'âge de 15 et 20 ans. De brèves années d'écriture, mais qui à elles seules sauront marquer les époques et les générations qui l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Rimbaud, c'est d'abord un enfant brillant à l'école, poussé par sa mère d'origine paysanne qui élève seule ses 4 enfants. Il développe rapidement un attrait pour la littérature et la poésie. À seulement 9 ans, il écrit déjà des vers latins, puis, plus tard, il écrit sous l'égide de son professeur de rhétorique, Georges Isambard, à qui il présentera le poème Ophélie, un poème en alexandrin. Mais c'est aussi un élève qui voit naître en lui un attrait pour la révolte, surtout contre l'ordre établi, qu'il soit social ou religieux, contre toute forme d'autorité. On a donc très tôt chez lui à la fois une précocité littéraire et un anticonformisme ainsi que le germe de la révolte. Un de ses professeurs de collège entrevoit déjà toute la complexité qui anime le jeune Rimbaud. Il disait ceci de lui. Il finira mal. En tout cas, rien de banal ne germera dans sa tête. Ce sera le génie du bien ou du mal. Adolescent, Rimbaud fuguera à plusieurs reprises. Sa première fugue à Paris sera d'ailleurs couronnée d'une arrestation pour avoir voyagé avec un billet pas valable. Il sera incarcéré à la prison de Mazas et c'est son professeur de rhétorique qui l'en fera sortir. Il fuguera encore par la suite et renoncera à passer son baccalauréat, plus enclin à découvrir Paris, à rencontrer des poètes et à débuter lui-même dans le milieu. Ses années de vagabondage, alors qu'il a à peine 16 ans, seront le terreau de poèmes tels que « Ma bohème »,« Au cabaret vert » ou encore « Le dormeur du Val », qui est un poème en lien avec la guerre, puisque la guerre contre la Prusse avait démarré en 1870, ainsi que la Commune de Paris. C'est aussi en cette année 1870 qu'il rend visite au poète Paul Demeny, à Douai, pour lui remettre 7 poèmes composés lors de sa fugue. Quelques mois plus tard, il lui demandera pourtant de brûler les poèmes, qui seront finalement oubliés par Paul Demeny et retrouvés 17 ans plus tard et répertoriés sous l'appellation « Cahier de Douai ». Il faut savoir aussi qu'à l'époque, Rimbaud avait établi un contact avec les poètes Théodore de Banville et Paul Verlaine par correspondance. Il avait envoyé quelques-uns de ses poèmes à Verlaine, qui avait été réceptif et l'a invité à le rejoindre à Paris. C'est à ce même Paul de Meuny que Rimbaud écrit la fameuse « Lettre du voyant » où il expose ce que doit être pour lui la mission du poète et ses propres concepts en matière de poésie. Je vais vous lire un extrait de cette lettre dont j'avais déjà parlé dans le tout premier épisode du podcast, puisque c'est dans cette lettre que Rimbaud évoque l'image du poète voleur de feu. Il disait ceci « Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. » Rimbaud éprouve déjà si jeune le besoin de réinventer la poésie. À ses yeux, l'un des seuls poètes modernes s'étant fait voyant, comme il le dit, est Charles Baudelaire, même s'il est trop conservateur dans son expression poétique selon lui. Rimbaud veut réinventer la langue, la forme poétique, mais aussi le fond même de la poésie. Dans ses premiers textes, Rimbaud respecte les règles traditionnelles admises de la poésie, mais petit à petit, il s'écarte de ce qu'il appelle la vieillerie poétique. Il rejette d'une certaine manière la poésie classique. Il voulait rompre avec la poésie du Parnasse, avec une poésie trop lyrique à son goût, en employant un langage plus populaire, en déstructurant les phrases. Il contribue à l'invention en France du vers libre et au poème en prose qui connaît à l'époque ses prémices. Il se fait ainsi le précurseur en France d'une poésie moderne. Lors de mes recherches, j'ai lu aussi que Rimbaud, au-delà d'avoir bouleversé la nature de la poésie, en l'inscrivant dans la modernité, a aussi interverti l'ordre de la création poétique parce que dans sa poésie, la théorie précède l'œuvre qui va trouver sa finalité dans la vie, dans le réel. Ce qui veut dire que ce qu'il écrit ne tire pas sa légitimité du vécu, mais précède le vécu, l'œuvre précède le vécu en vue de s'y appliquer. Dès son arrivée dans la capitale en 1871, il y sera très rapidement intégré dans les cercles de poètes de l'époque. Son écriture impressionne, notamment lors d'une soirée où il présente son poème « Le bateau ivre », mais c'est sa personnalité qui le fera exclure des cercles littéraires, avec des attitudes volontairement provocantes, parfois méchantes, ajoutées à cela son goût pour l'alcool et la drogue. Il reviendra pourtant à Paris, pour partir ensuite en Angleterre et en Belgique, accompagné de Paul Verlaine, avec qui il a noué bien plus qu'une idylle. Ces années de vagabondage, de passion amoureuse, tumultueuse, vont être source d'inspiration pour les deux poètes. Rimbaud écrira les poèmes de son recueil « Illumination » à cette époque. Mais cette passion connaîtra son terme le 10 juillet 1873, lorsque Verlaine, qui avait acheté un revolver, accablé à l'idée que Rimbaud puisse le quitter, tire sur Rimbaud de deux coups et le blesse. Suite à cet incident, Rimbaud écrira « Une saison en enfer » et le fera publier à compte d'auteur. C'est le seul recueil qu'il publie jusqu'alors, le reste de ses textes ayant été publiés dans des revues plutôt confidentielles. Il reste quelques années en Europe, entre Londres, Stuttgart et l'Italie, pour finalement s'exiler bien plus loin, mu par ses idées libertaires et anti-bourgeoises. Il part à Java en 1876 comme soldat de l'armée hollandaise, puis part travailler au Yémen pour gagner ensuite l'Abyssinie, en Afrique, dès 1881. En 1885, toujours en Éthiopie, il démarre sa propre affaire de marchand d'armes qui ne s'avérera pas fructueuse. En réalité, ce trafic consiste à armer Ménélique II, prince puis roi des rois d'Éthiopie. Dans les correspondances qu'il entretient avec sa famille, on devine de Rimbaud qu'il n'est pas épanoui dans cette vie en Éthiopie et dans cette nouvelle vie d'aventure. Il était très seul, l'argent était placé au cœur de sa vie, son principal objectif était alors de faire beaucoup d'argent. Pendant ce temps-là, en France, en 1886, « Illumination » et « Une saison en enfer » sont parus dans la revue symboliste « La Vogue » sans que Rimbaud ne soit au courant. Quelques années plus tard, souffrant d'un cancer des os, il est contraint de regagner l'Europe pour se soigner. Il sera finalement amputé de la jambe peu de temps après et il mourra à Marseille en 1891 à l'âge de 37 ans. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. En me penchant sur la vie d'Arthur Rimbaud, je me suis rendu compte qu'il est intéressant de connaître la vie d'un auteur et le contexte dans lequel telle ou telle œuvre a été écrite, parce que ça permet d'avoir plus de clés de lecture ou une approche différente, plus éclairée dans la lecture de ses poèmes. J'ai volontairement voulu être concise dans ma façon de présenter un petit peu sa vie, son œuvre, parce que je trouve que ça sert à rien de s'embourber dans des détails. C'est vraiment, le plus important, c'est d'avoir une vision globale de sa vie. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas trop, comme c'était mon cas il y a encore pas si longtemps que ça, je connaissais juste quelques événements que tout le monde connaît, comme sa relation avec Verlaine, mais voilà. Et je trouve aussi que c'était important de voir aussi quel a été son impact sur la poésie, comment il l'a modernisée, comment il l'a réinventée, quelle était sa conception. Et je vous invite vraiment justement à lire la lettre du voyant et les lettres à Paul de Meunier, parce que ça, elles sont assez intéressantes. Donc voilà. La vie d'Arthur Rimbaud, elle est quand même assez intrigante, passionnante, comme je vous disais au tout début. Donc c'est ça aussi qui m'a donné envie de présenter sa vie. Mais c'est vrai que j'ai envie de recommencer un peu ce format de présentation un peu de la vie de certains poètes. Et si vous avez des poètes en particulier qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à m'en faire part. Je sais que certains m'avaient dit qu'ils aimeraient bien un épisode sur Baudelaire ou Prévert aussi. Donc voilà, donc je vais essayer de voir. Et si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez m'aider à le soutenir en lui mettant une étoile ou un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et n'hésitez pas à suivre la page Insta des Voleurs de Feu pour avoir plus de contenu sur le sujet de la poésie. Le lien est en barre d'infos. Encore merci pour votre écoute et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.